MC.
Bounce the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec notre Dream Team, toujours au rendez-vous, Arnaud Valadon, Stephen Brun et Frédéric Weiss. Comment allez-vous messieurs ?
Bonjour Pierre.
Bonjour. Salut Pierre.
Nous nous rapprochons de l'ouverture de la saison NBA, c'est dans quelques jours maintenant. T'as la date en tête Arnaud ?
24 octobre.
Ouais. Le 24 octobre.
Bon, un mois quand même.
Hein. Arrête, donc je sais que c'est à partir
de... Alors nous allons faire un focus sur les Français de la NBA. C'est un spécial français de la NBA avec une excellente question. Va-t-on revivre l'âge d'or du basket français ? Va-t-on revivre cette période où on avait des grands joueurs dans plusieurs franchises, des Tony Parker et Boris Dio comme s'il en pleuvait, suivi par Nicolas Batum, etc., etc.
Il en pleuvait tellement que tu n'en cites que deux. Hein.
Ben non, mais Van Fournier, il y en a plein quand même.
Tu cites pas Joachim Noah.
Joachim Noah.
Bon, est-ce qu'il est vraiment français ?
Je les citer, oui, quand même.
Bah, il a plusieurs passeports. Hein.
Oui, mais il a joué en équipe de France, du moins.
Oui. Mais
si tu me dis, est-ce que Joel Embiid est vraiment français ?
Est-ce que c'est le plus français des Français qui ont joué en NBA ?
Est-il français ? Il n'y a pas de débat quand même.
Est-ce que c'est le plus français des Français à avoir joué en NBA ?
Alors là, tu cherches à t'en sortir d'une question qui n'aurait jamais dû exister, c'est tout. Hein.
Oui, c'est comme dire, est-ce que Zidane était un grand joueur de football ?
Exactement. Non, mais tu sais, quand... non, mais c'est dingue, c'est... Nos cerveaux parfois sont connectés, Stephen.
Tu pensais à ça aussi ?
Je pensais à ça en fait. En répondant ceci à Arnaud, je me disais, il y a des choses qu'on ne peut pas sérieusement débattre. Zidane est-il un très grand joueur de foot ? Je ne sais pas ce qu'il leur a pris de débattre de ça dans l'after. Bon, parenthèse refermée, là on parle basket. Même si tu sais que Fred Weiss, ici présent, pense que Zidane n'est peut-être
non,
pas
c'est
un
pas
si grand joueur de foot.
J'ai dit qu'il, pour moi, il était un peu surcoté.
Bon, bah là, non, mais là je vais m'évanouir. Évidemment. Moi, quand j'entends des trucs comme ça, je peux m'évanouir.
C'est l'after basket.
Non, mais je te jure, je peux m'évanouir. Hein.
Vas-y.
Après, est-ce qu'il y a eu des meilleurs joueurs que lui ? Oui. Mais ça n'empêche pas que c'est un grand joueur.
Oui, mais en fait,
mais
moi,
un immense joueur. C'est-à-dire que c'est pas, on est là. Bon, on va pas
moi,
faire des balades ici.
Un très grand joueur. Mais pour moi, il y a bien plus fort.
Alors, nous ferons ce débat une autre fois en un autre lieu, car ici, nous parlons basket. Alors, peut-on revivre l'âge d'or du basket français ? Ça sera notre premier débat. Et puis, alors, en revanche, il y a des garçons pour qui l'avenir est moins rose. Donc, Evan Fournier, Rudy Gobert sont-ils condamnés à une saison dans l'ombre ? Ce sera nos deux débats d'actualité. La partie historique est excellente. J'aime ce débat. J'espère qu'il y aura débat. La France, oui.
C'est toi qui l'aime.
La France est-elle la nation étrangère qui a le plus marqué la NBA ?
Ah, c'est beau ça.
C'est très, une très belle question.
C'est beau, Pierrot.
Et puis notre quiz.
Mais on peut compter Joachim Noah dedans ou pas ?
Évidemment. Évidemment.
Il est français.
On compte tout.
Oui.
Et puis alors, notre quiz, comme on est sur les Français de la NBA, c'est gratuit. Je sais que vous l'adorez et que vous réclamiez ce quiz depuis longtemps. Ce sera un spécial Boris Dio.
Un spécial Babac ?
Oh !
Ah, c'est pour toi, ça, tu t'es fait un petit plaisir. Hein.
C'est pour vous, je sais que vous l'adorez. Allez, c'est parti pour donc ce Basket Time spécial français de la NBA.
With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. With the seventh pick in the 2023 NBA Draft, the Indiana Pacers select Bilal Coulibaly from Courbevoie, France.
Prepare for three. It's good.
It's a steal by Sissoko, trying to push the pace. Got his man. Back. Sidi Sissoko, look out below.
Return, stepping through.
Left hand, fitted from the kid. Oh, wow.
There's that.
Long rebound, out to Sissoko, who throws it down. Oh, my goodness.
Alors, donc, il y a Victor Wembanyama, bien sûr, numéro 1 de la draft, mais il y a toute une nouvelle génération de joueurs français qui débarquent en NBA ou qui doivent s'y épanouir, parce que certains y sont déjà, d'autres vont arriver. Et donc, avant de débattre, on va faire le point, justement, Arnaud, sur tous ces jeunes talents qui débarquent en NBA, jeunes talents français, bien sûr.
Alors, il y a un petit joueur, je pense que vous en avez entendu parler, Victor Wembanyama. Bon, on va aller très vite, hein, premier choix de la draft. Oui, je suis sûr qu'il est français. MVP du championnat de France. On attend son début avec les San Antonio Spurs. Bilal Coulibaly, c'était la petite surprise et l'une des sensations du championnat de France 2022-2023. Septième choix, il portera les couleurs des Wizards, joueur avec un très gros potentiel. potentiel sur le poste d'arrière ailé. 5,3 rebonds en moyenne en Betclic Elite, même s'il a fini beaucoup plus fort avec beaucoup plus de temps de jeu et de responsabilité, notamment en play-off, des pointes à 14 points. Et en Summer League, il a été plutôt convaincant avec 19 points, 4 rebonds, 4 contres et 4 passes notamment. Ryan Rupert, qui a été sélectionné au deuxième tour alors qu'on l'annonçait plutôt au premier tour. Il était d'ailleurs dans la fameuse Green Room, c'est-à-dire on était plutôt sur les 15 premiers choix. Finalement, en 43e position à Portland. La bonne nouvelle, c'est un contrat garanti pour Ryan Rupert qui va pouvoir donc jouer, probablement avoir aussi des allers-retours en G League. On a Sidy Sissoko qui a été sélectionné juste derrière. Lui aussi, c'est un 2004. On le connaît beaucoup moins. Sélectionné par les Spurs. Là aussi, c'est un contrat garanti. On le connaît peu parce qu'il a été tout de suite en jeune du côté de Baskonia en Espagne. Puis, il s'est épanoui chez Ignite, la franchise de développement en G League. Arrière plutôt explosif. L'année dernière, il tournait à 11,3 bon et 3 passes. Et puis tu parlais des jeunes joueurs qui vont pour Ousmane Dieng arriver dans sa deuxième saison NBA au KC, 39 matchs l'an passé, là aussi pas mal d'allers-retours en G-League. Kylian Hayes qui est dans sa quatrième saison, toujours très importante pour un rookie parce que c'est là que tu vas pouvoir négocier un nouveau contrat. À Détroit, il a eu beaucoup de temps de jeu, 28 minutes l'an passé parce qu'il y a eu beaucoup de blessés sur les lignes arrières, Jaden Ivey, Kate Cunningham, 10 points, 6 passes, ça en avait fait un des meilleurs passeurs de la Ligue. On n'oublie pas également Théo Malédon qui est un petit peu plus expérimenté, c'est un 2001 et à Charlotte qui a mis une qualifying offer, c'est-à-dire qu'ils l'ont protégé avec un contrat à 1,8 million de dollars. Donc, il pourrait rester à Charlotte. Il jouait en moyenne 19 minutes, 6 points à 40% et 3 passes de moyenne. Voilà pour les Français un peu plus, les plus jeunes. Il y
alors,
en a d'autres.
Évidemment, on se projette sur un avenir proche, mais il va falloir du temps, un peu de maturation à tous ces jeunes gens. Est-ce qu'on peut imaginer avoir de nouveau la France très représentée par des joueurs majeurs un peu partout aux quatre coins de la NBA? Fred, qu'est-ce que tu en penses avec cette génération?
Alors cette génération-là, les générations qui arrivent, hein, parce qu'il faut pas oublier les Rizachés qui vont arriver, les Salins, etc. etc. Donc concrètement, je pense qu'on a...
Salin ? Je connais pas.
Tijan Salin, tu connais pas, qui joue à Cholet ?
Non.
Un futur potentiel de 2005. Très 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 bon joueur en devenir. Alexandre Sarr évidemment aussi,
mais on les annonce pas mais on les annonce très haut, hein.
Ouais, Alexandre Sarr, méfie-toi,
ouais, c'est ça, oui. Qu'il est en train de monter, oui, Alexandre, oui, oui. Sarr. C'est pour ça que je termine sur lui, parce qu'on les annonce, lui on l'annonce plutôt assez haut quand même. Juste, oui, effectivement, on a un potentiel incroyable. On nous envie tous le potentiel français. On parle beaucoup de la formation française. Alors, je ne sais pas, quand on part aussi tôt, je ne sais pas si on peut parler vraiment de formation. Mais en tous les cas, on a des joueurs qui ont un vrai talent, une vraie attente, une vraie possibilité. Ousmane Dieng, il a 20 ans, c'est sa deuxième saison déjà.
Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait l'an dernier, lui, par exemple?
Alors, il a Ousmane fait beaucoup d'allers-retours. Avec la G-League, il le disait tout à l'heure, mais par exemple, sur son dernier match de saison régulière, il a 22 points, 8 rebonds, 9 passes. Alors, ce n'est pas réellement garbage représentatif, c'est un peu du garbage time, je suis d'accord. Sauf que okay, se montrer sur des fins comme ça, c'est toujours important. Tout le monde parle d'un potentiel énorme. Je me répète, à 20 ans, déjà dans sa deuxième saison, dans une équipe très jeune d'OKC. Moi, je me dis que lui, il a une possibilité.
Il est considéré comme crédible, hein, vraiment. OKC, oui. Compte
Jean-Marc
sur
Crédit.
Lui. Oui, Jean-Marc Crédit.
Jean-Marc Crédit. Alors là, on a un Stephen qui est très en forme. Je suis très inquiet. Jean-Marc Crédit, oui.
C'est vrai?
Oui, bah le nom, oui, quand même, un minimum, oui.
Et donc, pour revenir un petit peu aux autres, Koulibaly, ça peut être très impressionnant. Après, il arrive dans une équipe complètement en reconstruction. Et quant à Jordan Poole dans ton équipe, bah, il faut s'habituer à ne pas toucher beaucoup le ballon, déjà. Donc, crédible, effectivement, lui aussi, par rapport à sa Summer League, à voir ce que ça peut donner.
Ouais, alors, voilà, quand tu me dis à voir ce que ça peut donner, ça n'augure pas...
Non, ça n'augure pas... À voir ce que ça peut donner...
Ça ne dure pas d'un âge.
Il est moins NBA ready que Victor.
Tu as raison, Pierrot.
Non, mais tu vois, quand tu me dis...
Non, mais à l'instant T, effectivement, c'est pour ça que je précise, à l'instant T, savoir ce que ça peut donner, ça peut être
compliqué. Mais pour moi, quand je t'entends, je n'ai pas l'impression qu'une vague bleue va déferler sur la NBA.
Non, non. Moi, je suis d'accord avec toi, Pierrot. L'âge d'or, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui marquent des franchises et qui font des choses en NBA.
Alors, Victor va probablement le faire.
Et, oui, mais si on peut parler d'âge d'or, je veux dire qu'il n'y a que Victor, peut-être, qui va permettre à la France de régner un peu sur la NBA. Prétendre avoir les rênes d'une franchise aujourd'hui, il n'y a que Victor Wembanyama qui va l'avoir l'année prochaine avec les Spurs.
Il est très jeune et rappelle-toi, il n'était pas drafté très haut, Tony Parker, quand il est arrivé là-bas. Ça a été une surprise aussi. Et Koulibaly, pour moi, même s'il est drafté très haut, il a ce potentiel d'exploser.
Washington. L'âge d'or, ça veut dire aussi faire quelque chose en termes de trophée. Victor, lui, peut être rookie de l'année. Donc déjà, c'est un trophée et ça fait parler de la France en NBA. Maintenant, moi, j'ai pas mal de points d'interrogation sur ces garçons-là. Franck Ntilikina, Théo Malédon, pour moi, ils sont en sursis en NBA avec Charlotte, puisque Théo Malédon, il a encore fait de la G League l'année dernière, alors que ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'il est dans la Ligue. Donc ces garçons-là, pour moi, ils sont en sursis. Kylian Hayes, il est sur sa dernière année de contrat rookie. Il tarde à s'imposer dans une franchise moribonde et l'année dernière il joue parce que Arnaud l'a rappelé, Kate Cunningham et Jaden Ivey sont beaucoup blessés et là l'année prochaine ils vont être là, donc ils vont être starters.
En
plus ils ont drafté Oscar Thompson en 5e position qui est en arrière aussi, donc moi Kylian Hayes je suis plutôt inquiet pour cette saison NBA, je le vois pas énormément jouer. Après les nouveaux Bilal Koulibaly. Écoute, le front office des Wizards est emballé par lui. La Summer League a été correcte. C'est une nouvelle ère à Washington. Exit John Wall, exit Bradley Beal surtout, et place à Jordan Poole et Kyle Kuzma. Sur le poste derrière, il y a Tyus Jones qui est arrivé de Memphis, donc il va avoir une concurrence là-dessus. Mais moi, je pense que Bilal Koulibaly peut être performant. Et alors que ça va vite pour lui. Il a que 6 mois de très haut niveau, puisque au début de saison avec les Mets, il joue même pas.
Il
est en espoir, il s'impose après.
En fait, Tyus Jones, il joue peut-être plus meneur, et justement, avec son expérience et avec ce qu'il a montré l'année dernière, moi je pense que ça peut être intéressant justement de jouer avec lui pour
oui, avec lui. Après Bilal, on l'attend sur quel poste? 2-3 carrément. 3
3 ça va être dur, mais voilà, c'est
il va grandir encore poste. Un petit peu peut-être.
Ouais, après Sidy Sissoko, moi j'attends, je sais pas, j'en attends pas grand chose.
Pas
de point fort. Alors est-ce qu'il va s'imposer dans un rôle défensif?
C'est dur, il est fort défensif.
Mais est-ce qu'aujourd'hui en NBA, dans cette NBA là,
Ryan Rupert, c'est un peu ça aussi, hein?
On en parlera de Ryan Rupert, mais moi je suis inquiet aussi pour Ryan Rupert dans une franchise qui est bordélique comme Portland et qui devrait bouger avec Damien Lillard. Je sais pas comment Ryan Rupert va pouvoir s'imposer, parce que lui aussi offensivement c'est très light. Alors il est grand, il défend, il a des longs segments, mais est-ce qu'aujourd'hui en NBA des joueurs comme ça, il n'y en a pas des milliers en fait capables de faire ça? Est-ce que la NBA te demande pas des prédispositions offensives?
Il a 2 mètres 20 d'envergure quand même, et il a vraiment des dispositions défensives intéressantes.
Non, mais t'as quand même cette étiquette du joueur français très scolaire et qui a peut-être du mal à prendre ses tickets shoot. Souviens-toi de Franck Ntilikina, c'est un des reproches qu'on lui faisait beaucoup.
Est-ce que la situation en Blazers peut pas l'arranger quelque part? Alors soit c'est tout l'un ou tout l'autre, la situation est très compliquée là-bas, donc soit il va passer une saison
galère. Oui, mais t'as une étiquette sur les joueurs français, c'est ils ont des bons fondamentaux, mais par contre ils mettent pas de tir.
Et un billet, il faut mettre des points. C'est la vie de la NBA, Pierrot.
Après, tu me dis.
Toi, t'es un bon défenseur, Pierrot, mais si tu ne mets pas de puntos.
Je ne sais pas si j'ai déjà mis un panier dans ma vie, moi. J'ai joué au basket 50 fois au max dans toute ma vie. Donc,
50 fois, j'espère que tu en as mis un quand même.
Non, mais à l'échauffement, oui, mais sur
quand
une petite opposition contre mon fils.
Tu as dû quand même mettre des paniers, non?
Sur le panier décathlon de 15 cm, oui.
Ah, sur ta terrasse,
avec la balle,
oui.
Tu mets des gros dunks dessus ou pas?
Je mets des gros dunks, quoi. Des fois,
tu fais chialer, Oscar?
Non, pas assez, je pense. J'ai vu le documentaire Yannick Noah et Joachim Noah, voilà. Il l'a martyrisé, Bon, mais après, l'autre, il avait des dispositions.
Oui, mais après,
tu peux être dur avec un gamin s'il est fort.
Regarde, tu parles de.
S'il est moyen, t'es dur. Bon.
Tu parles de Joachim, mais pour parler de l'âge d'or du basket français, bon, Tipeee, on sait ce qu'il a fait, on va pas répéter. Mais t'avais Joachim Noah qui était All-Star et qui a été le meilleur défenseur de la saison et qui a été élu dans le meilleur 5 de la NBA. T'as Boris qui, mine de rien, pas sur des productions chiffrées. Mais qui était un joueur qui comptait dans les franchises NBA avec un rôle majeur mais pas forcément chiffré. Nico Batum qui a jamais été peut-être un franchise player mais qui était un joueur qui compte à Portland
et dans des équipes qui faisaient les playoffs,
qui faisaient les playoffs. Donc tu avais des garçons.
On en est loin pour toi.
Pour moi on en est loin.
Après tu dis, je sais pas ce que Bilal Koulibaly va pouvoir faire à Washington, mais il reste qui à part Jordan Poole? Elle est encore compétitive cette équipe? Il y a encore beaucoup de gros joueurs.
Kyle Kuzma et Jordan Poole vont shooter 45 fois.
Il y a peut-être une place à se faire quand même, non?
Oui. Non mais Bilal Koulibaly, j'ai des attentes
j'y crois. Mais tu dis c'est dur quand t'es à côté de Jordan Poole d'avoir le ballon, mais il y a quand même, c'est quand même pas une franchise qui déborde de talent, il me semble.
Ils vont faire 30 victoires, ils vont quand même être les bas-fonds. Ils seront dans les bas-fonds de la conférence Est.
C'est le problème de la franchise. Là on parle plus du joueur, on parle de la franchise.
Jordan Poole,
c'est nul. Elle était mieux sur Jean-Marc Crédit.
Oui, c'est vrai. Non, mais Bilal Koulibaly, pour moi, je suis confiant. C'est moi, Ryan Rupert, j'ai quelques doutes. Les deux de Charlotte, Bon, là, c'est plus que des doutes pour moi.
En plus, il joue le même poste, en plus. Donc, je pense qu'il y en a un des deux qui sera sacrifié.
Exactement.
Minimum.
Ousmane Dieng, qui devait être partenaire des Bleus cet été, mais blessé au dos, il n'a pas pu venir. Lui, il a un vrai potentiel. Il est grand. Il a un gabarit de vrai joueur de basket. Maintenant, au KC, on sait que c'est Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey.
Chet Holmgren qui arrive.
Et Chet Holmgren, qui était numéro 1 de draft l'année dernière et qui a fait une année blanche, qui va jouer. Donc, là aussi, il y a des garçons qui vont passer avant lui sur la priorité offensive et sur les minutes de jeu. Donc, à l'âge d'or du basket français, moi j'ai du mal à y croire. Pierrot, qu'on ait des joueurs, oui, mais des joueurs impactants, je ne suis pas sûr.
Arnaud, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, l'âge d'or, c'est un peu biaisé parce que Victor va, c'est plus qu'une pépite, va prendre énormément de place. Donc on aura cette, je ne sais pas si c'est une illusion, mais on va en parler tellement, et les médias américains vont en parler tellement, qu'il y a un bon baromètre hein, pour savoir si on peut parler d'âge d'or ou pas quand on parle de toi là-bas et que tu n'es pas américain, ça veut dire que tu comptes. Derrière, il y a, oui, Bilal Koulibaly, j'ai envie de.
Moi,
d'être confiant,
croire,
Ousmane Dieng aussi. Après, à voir pour les plus anciens aussi, puisqu'ils sont là. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, Rudy Gobert, Evan Fournier. Mais on va avoir peut-être le très 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 haut avec Victor.
Et derrière, moyen, quoi.
Voilà.
Bah, ça fait quelques temps que c'est comme ça.
Il y a peut-être un ou deux qui peuvent émerger. On peut espérer ça.
Oui.
On peut espérer ça. Après, il y a la génération intermédiaire qui commence à avoir quelques années derrière elle. Donc, on a parlé de Killian Hayes. Cela, c'est maintenant ou jamais, non Malédon, Killian Hayes, j'en oublie certainement.
Franck Ntilikina.
Franck Ntilikina, je pense que sa carrière, ce qu'il a fait là, il va continuer à le faire. Il n'exposera pas en NBA.
C'est pour ça qu'il est en sursis.
Oui, mais là, je te rejoins complètement. Ils sont en sursis parce qu'on a l'impression que. Ils sont là, c'est bien, ils sont pas là, c'est pareil.
Franck, déjà, il est à deux doigts d'être en Europe. S'il trouve pas ce contrat à Charlotte, il est en Europe.
De toute façon, pour ces joueurs-là, Franck, on sait très bien que s'il part de la NBA, probablement ils ne reviendront pas. Donc, c'est tenté jusqu'au bout une dernière fois. Et puis après, ça sera une carrière en Europe.
Après, il y a Olivier Sarr, le frère d'Alexandre Sarr, qui a signé un two-way contract avec quelle franchise ?
Avec OKC.
Donc, il sera avec Ousmane Dieng. Mais là aussi, tu vivotes en fait.
Moussa
Diabaté, qui est aux Clippers, mais qui est aussi vivote et a du mal à faire sa place dans une franchise qui joue ses dernières cartouches pour être champion NBA. Et Tanico Batum, qui sera encore là dans son rôle, dans le corner, voilà, à mettre un peu de liant entre Kawhi et Paul George.
Malcolm Cazalon a des trois. En two-way aussi.
Oui, donc du vivotage, aussi. Ouais.
Et alors, est-ce qu'on est à notre place ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait faire mieux quand même avec parce qu'il y a de plus en plus de talents qui sortent quand même de la formation française. S'il y a un truc qui marche, c'est bien ça quand même. Je pense qu'on peut être d'accord.
Oui.
On sort beaucoup plus de joueurs qu'il y a 20 ans ou 30 ans, non ?
Après, oui, parce que la NBA est ouverte.
Non, mais c'est ouvert aussi. Il y a peut-être. Oui, alors, soit la NBA est ouverte, mais je pense que la détection est meilleure aujourd'hui, non ?
La détection est meilleure. Aujourd'hui, tu as des scouts partout qui vont voir tous les championnats en Europe et même dans le monde entier. Et qu'il y a toujours cette draft sur le potentiel et pas sur le joueur abouti que tu es actuellement. On est sur des prospections. Et aujourd'hui, les joueurs français font un peu fantasmer tous ces scouts parce qu'il y a la verticalité, il y a les qualités athlétiques qui te permettent d'exister en NBA, mais qu'ils prennent des paris, entre guillemets, sur ce garçon-là. Peut-être que d'ici 3-4 ans, il va pouvoir devenir un joueur important. Mais quand ils draftent les garçons, c'est pas des joueurs finis, c'est pas des joueurs terminé encore. Donc il faut pour
bon, ça. Stéphane, ça fait, le ça Koulibaly, hein. Koulibaly, quand il va là-bas, alors on voit ses stats, il a 5 points, 3 rebonds. Bien sûr que sur la fin, il est bien meilleur, mais finalement, il le draft sur le potentiel qu'il a eu sur les quelques derniers matchs.
Et sur l'exposition
matchs,
avec Victor, parce que les matchs des Mets étaient diffusés sur le League Pass. Mais juste pour aller dans le sens de Stephen, ça se passe même plus jeune, plus en amont de la draft NBA, où les jeunes joueurs français de 15, 16, 17 ans partent déjà en dehors de la France. Il y a un vrai sujet, là c'est au niveau fédéral et même au niveau de la fédération internationale, c'est que beaucoup partent, alors ça se faisait un peu avant, mais peut-être un peu plus aujourd'hui, tout de suite en collège.
Alexandre Sarr, il est passé par l'Overtime, il va en Australie là, voilà. C'est compliqué.
Ah, tu vois, Sidi Sissoko.
On a Fibleuil qui va à UCLA, donc concrètement, la formation française,
encore,
oui, mais.
Là, s'il y a des programmes plutôt intéressants, parfois t'as aussi des programmes au collège qui sont pas terribles.
Et puis t'as beaucoup de choses aujourd'hui qui sont là pour faire concurrence à la France. Overtime, où aujourd'hui les gamins sont là, sont exposés. T'as la Init League où c'est une équipe où tu peux prendre des gamins. T'as le programme en Australie qui te permet d'avoir dans chaque équipe un joueur avec un statut un peu particulier. Alexandre Sarr l'a eu, Ryan Rupert l'a eu.
Hugo Besson.
Hugo Besson l'a eu aussi. Donc t'as beaucoup plus de concurrence dans des championnats qui payent, qui sont peut-être plus rémunérateurs aussi. Et aujourd'hui, les gamins à 18 ans, si tu leur permets d'être dans un championnat pro,
non, mais
avoir l'exposition pour l'NBA.
T'es payé.
Eh oui.
T'as un préparateur physique, t'as un diététicien, t'as une garantie de jeu. Bah, à un moment, c'est logique.
Bon, l'âge d'or de la France NBA, on n'est pas tout près, quoi.
Non, on n'y est pas.
Non, mais on peut.
Toi, t'es optimiste.
Je suis optimiste.
Toi, t'es optimiste. C'est un spécial français de NBA.
Pour toi, si Victor brille et qu'il est le seul à briller, est-ce que
ça. Ah, bah, ça va quand même créer quelque chose. Après, il faudra voir où sont les suivants, s'ils sont très loin de lui ou pas très loin. Mais quand tu as un mec, une vraie locomotive qui peut potentiellement être le meilleur joueur de la Ligue, si tu as 3-4 mecs qui sont dans un 5 majeur, dans des bonnes franchises, ben, on ne sera pas loin de la période Tony Parker, c'est en clair. Fait.
Non, je suis complètement d'accord.
Donc, c'est quand même pas complètement impossible de l'imaginer. Après, quand je vous entends parler des joueurs, il y a du boulot.
Oui, parce que c'est sur le chemin. Quoi,
ouais, chemin.
C'est sur le potentiel qu'ils ont drafté. C'est pour ça qu'on doit.
Si tu prends le statut aujourd'hui,
de toute façon, c'est.
L'âge d'or, tu avais un paquet de mecs qui étaient starters.
C'est hein, l'arrivée de Wembanyama qui permet de fantasmer bien à sûr, ça, bien de toute façon.
C'est Mike Pietrus qu'on n'a pas parlé aussi.
Pietrus aussi, qui était starter, qui a fait finale NBA et tout ça.
Merci de citer son nom,
Mike.
Bravo, Arnaud.
Pour réhabiliter Mike Pietrus.
On continue sur les Français de la NBA. On va revenir à nos vieux Briscard, Fournier et Gobert.
Knicks guard Evan Fournier kept it absolutely 100 about wanting to get out of New York.
Bang! Evan Fournier from downtown! Fournier puts it in! Evan Fournier red hot in overtime!
You and Knicks fans feel like he should have played more.
I don't think he should have played more.
If you went up to a random basketball fan and listed off Rudy Gobert's accomplishments, they'd probably say that sounds like a Hall of Fame career.
Oh! Jackson by Gobert.
Edwards.
The lob. Gobert with authority.
Pop off Gobert. We.
Yet, if you ask some fans who are more into the NBA, you'll find labels describing him such as overrated bum or fraudulent defensive player of the year.
Alors, Evan Fournier, Rudy Gobert sont-ils condamnés à une saison dans l'ombre? On va faire le point sur leur situation aux Knicks et aux Wolves. Alors, Fournier, ça fait un petit moment qu'il peine à trouver sa place dans une franchise NBA. Rudy, lui, bah, c'est le Jazz qui a décidé de tout casser et qui l'a envoyé là-bas. C'est pas pour l'instant les meilleures destinations de leur carrière. Arnaud, ils en sont où?
Alors, deux joueurs de la génération 92. Evan Fournier n'a joué que 27 matchs la saison dernière, benché pendant plusieurs semaines, difficile à vivre, complètement zappé par Tom Thibodeau. Il a déclaré récemment: je sais ce que je peux apporter, mais ce n'est pas dans mes mains, parce qu'effectivement, il est sous contrat pour une année encore à 19 millions de dollars. L'année 24-25 est une franchise option. Donc là, on peut s'imaginer que les Knicks vont pas la lever. Il a montré à la Coupe du Monde qu'il avait encore du ballon, puisqu'il est le meilleur marqueur français, 17 points à 47%. Et effectivement, c'est un départ. Il s'attend à être tradé, maintenant à savoir où, sachant qu'il est très attaché à la vie new-yorkaise. Évidemment, les Knicks, c'est là où il avait signé son contrat, mais aussi à la vie à New York. Donc Evan Fournier, là,
faut
c'est
qu'il
un...
Faut qu'il aille honnête.
Oui.
Faut un trade, hein, parce qu'il y a un contrat important quand même à 19 millions.
Alors aujourd'hui, 19, bon, c'est beaucoup d'argent évidemment, mais sur le marché de la NBA, est-ce que c'est un contrat qui handicape un transfert ou pas?
Par rapport au rôle que tu veux lui donner, ça dépend.
19 millions, ça veut dire que en
c'est
contrepartie,
un beau contrat,
en contrepartie, t'es obligé d'envoyer des joueurs qui ont l'équivalent de ce contrat-là.
C'est un peu lourd quand même. Hein. Honnêtement, c'est un petit peu
ça
lourd.
Par
rapport au rôle que tu veux lui donner dans une équipe, c'est un peu lourd.
Après, ce qui peut l'aider, c'est la dernière année, comme c'est une franchise option l'année d'après. Donc, une équipe qui voudrait avoir de la liberté au point de vue salarial pour 2024 peut aller absorber ce contrat et ça libère 19 millions à l'été prochain.
D'accord. Et pour Rudy, alors?
Alors, Rudy, première saison à Minnesota. Minnesota qui a hypothéqué un peu son avenir avec tous les choix de draft envoyés à Utah pour attirer le Rudy Gobert, le pivot français. 30 minutes de moyenne de temps de jeu pour sa première saison donc à Minnesota avec Karl-Anthony Towns. 13 points. 11 rebonds en baisse, pourcentage au tir 60% en baisse, battu par Denver au premier tour des playoffs. Ils ont eu quand même un play-in difficile puisqu'ils s'en sortent à l'arraché face à Oklahoma City, les Timberwolves qui avaient terminé 8e de la saison régulière. À la Coupe du Monde, 10 points, 8 rebonds, 10e rebondeur seulement. Alors on a fait un court passage, mais quand même 10e rebondeur seulement sur la compétition, c'est quand même loin des standards de Rudy Gobert qui est normalement dans le top 5. Et sa situation contractuelle, sous contrat jusqu'en 2026, 41 millions de dollars la saison.
Ah oui, là on est sur une autre dimension, mais en revanche, ce qui est bien pour Rudy, c'est que les Wolves, alors se sont peut-être trompés, mais ils le voulaient.
Et croient toujours en lui.
Exactement.
Puisqu'un dirigeant a dit que Rudy Gobert a fait une bonne saison.
C'est peut-être juste cette équipe qui est mal fagotée, mais ça peut fonctionner quand même, non, les Wolves.
Karl-Anthony Towns, il n'a pas beaucoup joué. On s'attendait à avoir cette situation. Il n'a pas énormément joué pendant la saison. En plus, je pense qu'il part de plus en plus de le trader, de toute façon, Karl-Anthony Towns. Donc, C'était pas une saison facile. En plus, on se rappelle de l'altercation qu'il avait eu avec Kyle Anderson, le Chinois. Donc évidemment, c'est pas une saison qui est facile dans les têtes. C'est pas une saison qui laisse un bon souvenir. Mais quand on y réfléchit, ils ont fait la saison qui... Enfin, je pense pas qu'ils puissent faire mieux sur une première saison. Ils ont besoin de...
Ouais, mais alors il y a quand même un gros potentiel. Il y a beaucoup de bons joueurs là pour le coup.
Oui, mais Anthony Edwards, par exemple, là, il a pris les clés du camion. Maintenant, c'est lui le patron du truc. Et déjà, ça va simplifier les choses aussi par rapport à ça. On sait qu'il continue à progresser, il continue à travailler dur.
Et Towns est en fin de contrat.
Et leur opposition, on parle de deux, leur défaite contre les Nuggets. Moi, je l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça.
C'est non, et puis tout le monde a pris une danse. Les Lakers se sont fait sweeper.
Voilà, donc quand tu
c'est plus peut-être le play-in, la façon.
Ouais, je suis d'accord, mais sauf qu'il passe.
Que Miami, c'était aussi en play-in.
En fait, ce qui était décevant, c'est leur saison régulière. Avec cette équipe-là, tu t'attendais à ce qu'ils fassent 4, 5 ou 6 et qu'ils aillent directement en play-off. Le fait qu'ils fassent 8e et qu'ils se fassent peur contre dans un play-in, c'est ça qui a été décevant. Tu les voyais tout en haut de la conférence Ouest. Ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe. Quand tu as Anthony Edwards qui va devenir un des meilleurs joueurs de la Ligue d'ici un ou deux ans, quand tu as une doublette Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, quand tu as Shake Milton, quand tu as Nickel Walker Alexander qui arrive et qui a été très bon avec le Canada, quand tu as Mike Conley à la main qui est quand même un vétéran dans cette Ligue-là, ils ont une belle équipe. Donc la semaine dernière, elle est décevante en bilan comptable. Après, tu perds contre Denver, tout le monde. Après, Rudy, il fait sa plus petite production chiffrée depuis 4-5 ans. Mais c'est normal, parce qu'avant, tu partageais les ballons avec Donovan Mitchell. Là, t'as Anthony Edwards, t'as Karl Anthony Towns.
Et même pourtant, poste, il y a un peu de concurrence. Que Nasrid, par exemple, il lui a pris quelques minutes.
Et t'as un bon backup. Maintenant, Rudy, il reste un mec quand même qui est en double-double, les doigts dans le nez, qui a 14 et 11 facilement, qui va avoir une année plus d'adaptation et il va un peu plus coller de son rôle. Donc,
après le souci, c'est sa Coupe du Monde. C'est sa Coupe du Monde.
Je crois que t'allais dire c'est sa Coupe de cheveux.
Non. En fait, le truc, c'est qu'on pensait que pendant cette Coupe du Monde, il allait se relancer un petit peu, se remettre en confiance. Et je suis pas sûr tout. que c'est ce qui soit passé. Donc, concrètement, ça me dérange un peu finalement pour lui, parce que je lui disais, avec une bonne Coupe du Monde, il va revenir dans de bonnes dispositions, et exactement. Et finalement, je me dis, est-ce que finalement cette Coupe du Monde qu'il ne voulait pas faire, il a bien fait de la faire.
Moi, la question que je me pose, est-ce qu'à 31 ans, tu peux devenir un joueur différent de ce que tu es.
C'est terminé.
On voit Rudy Gobert.
Mais c'est terminé. Vous attendez à quoi? Rudy Gobert, ça sera le même joueur jusqu'à la fin de sa carrière.
Mais lui veut jouer autrement. Il commence à tirer à 3 points.
Qu'il essaie de travailler pour progresser. Tu peux pas lui en vouloir de ça. Après, c'est que les autres attendent autre chose.
Progresser et devenir un joueur différent de ce que tu sais faire, c'est différent.
Oui, mais quand il arrive là-bas, tout le monde se dit, il va faire autre chose. Non, il va pas faire autre chose. Il va faire du Rudy Gobert.
Tout le monde est là à dire, faut qu'il justifie ses 40 millions par an.
Oui, mais t'imagines la pression qu'on lui a mis, la pression que les fans continuent à lui mettre en disant, mais le mec fait.
Mais est-ce qu'il devrait pas rester dans ce qu'il sait faire? Il est excellent.
Travailler et progresser, je vois pas en quoi c'est mal.
Oui, après Rudy Gobert.
Changer ta nature et travailler, c'est différent.
Mais il change pas sa nature. En quoi il change sa nature? Parce qu'il a acheté une fois à 3 points en équipe de France? C'est ça, changer sa nature?
Non, ça pour moi, c'est peanuts.
Non, mais ce que je veux dire, il change pas sa nature en fait.
Il va en prendre 2 peut-être cette année.
C'est
à 3 points. Rudy Gobert.
Réclamer tous les ballons, des ballons post-bas pour essayer de faire des
moves. Mais le jeu n'est pas fait pour ça. Il peut pas faire de moves post-bas. Donc on va pas lui donner des ballons post-bas. Je suis même plus sûr qu'il les réclame en NBA. Aujourd'hui, Rudy Gobert, là où il est très bon, c'est sur sa dissuasion défensive, 3 fois meilleur défenseur de l'année. Sur sa pose d'écran pour libérer les joueurs, rouler. Sur du robot offensif. Du contre, sur de la fixation passe pour finir au dunk. Voilà, moi je n'attends pas plus que Rudy Gobert. J'ai fait une croix sur Rudy Gobert qui fait du post-up. Voilà.
Mais tout le monde devrait l'avoir fait. C'est ça que je comprends pas. C'est que les gens peuvent encore lui reprocher des choses alors qu'il fait juste.
Est-ce que le problème chez Rudy Gobert à Minnesota, c'est pas aussi son entente avec Karl Anthony Towns? Je parle autant de l'entente basket que de l'entente personnelle.
Un de ceux qui le fournissaient le plus, sauf qu'ils ont pas beaucoup joué ensemble.
Est-ce qu'on n'a pas dit l'année dernière que finalement cette association ne fonctionnait pas si bien que ça?
Ils n'ont presque pas joué ensemble. Ils sont presque.
Est-ce que tu penses
que
ça peut fonctionner, toi?
Honnêtement,
il n'y a pas de raison.
Au départ, j'avais dit.
Pas du tout. C'est un poste 4 maintenant, Karl Anthony Towns.
Sauf que Karl Anthony Towns, c'est un de ceux qui l'a plus servi.
Okay.
Et donc, je me dis que ça peut fonctionner.
Et qui le soutient en plus.
Et qui le soutient,
qui est un fervent partisan.
Pour revenir à Evan Fournier,
même Edouard,
ça a changé. On a beaucoup parlé de Rudy, mais peu d'Evan. Pour revenir à Evan Fournier, qu'est-ce qu'on peut. Non, mais qu'est-ce qui pourrait relancer sa carrière? Ou du moins,
déjà une nouvelle franchise.
Vers quelle franchise? Quelle responsabilité?
Il y a deux choix. Soit une franchise qui vise un titre et qu'il pourrait garder sur le banc, mais à 18 millions ou 19 millions, ça me paraît beaucoup. Soit une franchise qui joue rien et qui serait, où il serait deux ou troisième meilleur option possible. 25
minutes,
offensive.
30 minutes.
Exactement. Parce que mettre des points, il sait faire.
Ça met des points, il sait faire.
Il peut se trouver où, à Portland, par exemple.
Je sais pas, s'il y a un trade à trois équipes, pourquoi pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a envie de faire, Evan, aussi? Peut-être que lui, il a envie.
Il est ambitieux, il a toujours été ambitieux, Evan.
Il a envie de jouer dans une franchise qui a des prétentions de play-off d'une et éventuellement d'aller loin en play-off.
Parce que je crois qu'il veut jouer, surtout là. Là, je crois que là, à l'instant T, je crois qu'il veut jouer.
Oui, mais tu peux très bien jouer dans une forte équipe, avoir un rôle.
À
22 minutes à sortie de banc,
19
c'est
millions. Si une équipe qui joue le titre à 19 millions pour un mec qui va sortir du banc juste pour te mettre quelques bombinettes, je suis pas certain, tu vois.
Bah, dans ces cas-là, je suis pas sûr qu'il serait très épanoui dans une franchise qui gagne 25 matchs à shooter tous les ballons. Evan, à ce stade de sa carrière, je suis pas sûr qu'il a envie de ça.
Je suis d'accord.
Mais est-ce que vous voyez pas priorité, une franchise qui a besoin d'un shooter, d'un mec qui peut mettre des points? Éventuellement en sortie de banc, mais est-ce que vous en voyez une que, je sais pas moi, n'importe qui, n'importe où, Boston, je sais pas qui, moi, une équipe
après,
plus sérieuse,
équipes où
quoi.
T'as besoin de renforcer un peu, on parlait de Washington, je pense qu'Evan pourrait faire du bien pour l'apport offensif.
Mais là, ça va gagner combien de matchs, là, Washington? Voilà le problème.
Et en plus, il va prendre des minutes à Bilal Koulibaly.
Ouais.
Ça, c'est pas son problème.
Mais ils ont parlé de lui à San Antonio.
Oui,
un genre d'expérience qui va monter un peu de points, tout ça, pour, moi je me dis que ce serait pas complètement débile.
Une équipe qui s'est pas vraiment renforcée, dont on n'a pas parlé notamment la semaine dernière dans le podcast, Denver a perdu pas mal de joueurs. Denver, ils ne se sont pas énormément renforcés. Ils ont perdu Bruce Brown, ils ont perdu Jeff Green. Ils n'ont pas non plus renforcé énormément. Donc
ils ont un peu de gap, je crois.
Et ils ont un peu de gap. Donc,
voilà, bah voilà, tu m'as trouvé la solution. Tu es le champion.
Ce
serait magnifique.
Oui, ce serait magnifique.
Bah voilà. Merci, Stephen. On a fait le tour.
Après, c'est des... Et ils pourraient se régaler avec Jokic, surtout.
Oui.
Bon, ça ne ferait pas beaucoup de défense sur le terrain, mais offensivement, ça pourrait être sympa.
Nous continuons ce podcast spécial français de la NBA et on va faire un peu d'histoire.
Luka knocks it down. Oh, Giannis with the block. Embiid, out of contact. Got it to go. Out the bucket. Jokic with a tough pull. Man, that's a million-dollar move by the reigning MVP.
The last four years, league MVP was won back-to-back by two international players, marking a new chapter in the NBA's global development.
You can talk about Manu, Paul Gasol, Tony Parker, Dirk Nowitzki, Hakeem Olajuwon, a lot of people that showed us that we can be great in this league.
Alors, vu qu'on est sur l'âge d'or de la NBA, l'âge d'or des Français en NBA, c'était notre premier débat, et vu qu'on est comme tout le monde un peu auto-centré, je vais vous poser une question qui risque de faire débat. Est-ce que, selon vous, après bien sûr les États-Unis, la France est la nation qui a le plus marqué la NBA en termes de production de joueurs, de nombre de joueurs qui ont foulé les parquets de la NBA, on fait partie des nations les plus représentées. On a eu aussi un NBA des finales, quatre fois champion, Tony Parker évidemment, d'autres grands joueurs dont on a parlé tout à l'heure.
On a eu d'autres bagues avec des joueurs comme Yann Naimi, Rodrigue Bobois et Dallas.
Exactement.
Avec une influence un peu moindre.
Et alors, il y a d'autres nations qui sont un peu dans le même cas. Il y a aussi, surtout, d'autres très grands joueurs de d'autres nationalités. Alors, donc, on va faire ce tour de table. Est-ce que pour vous, la France fait partie, est la nation qui a le plus marqué l'histoire de la NBA, Frédéric Weiss?
Oui.
Oui, bah, tu vas nous donner des arguments maintenant,
j'ai
cher.
J'ai plusieurs arguments. Pour marquer quelque chose, il faut être un des premiers. Tony Parker a été un des premiers non-américain, sur le poste de meneur en particulier, à s'imposer en NBA. Pour marquer un événement ou une ligue, il faut avoir des titres. Tony Parker a 4 titres, Boris Diaw en a 1, Joakim Noah en a pas, d'ailleurs, mais on a plusieurs joueurs qui ont ce genre de titres collectifs.
Plusieurs bagues aussi. Hein.
Oui, je suis d'accord, sauf que il est MVP des finales, on a MVP des finales dans notre groupe, on a des All-Stars à n'en plus finir, on a Babak qui a été MIP, qui est l'idole. Parce que j'ai cru comprendre en préparant l'émission, en parlant avec Arnaud, que lui allait dire que Jokic était évidemment un joueur fantastique et qu'il avait marqué de son empreinte la NBA. Sauf que l'idole de Jokic, c'est Babak.
Ah bon?
Donc, on a tous une idole. Hein.
Oui, mais
Michael Jordan, il avait des idoles.
Il n'y a aucun problème, mais ça veut quand même dire.
Je suis pas sûr que Jordan ait des idoles.
Son père, éventuellement. Mais...
Ça veut quand même dire qu'il a marqué la NBA lui aussi. On a un meilleur défenseur de l'année en 2014, Joakim Noah, qui était dans le meilleur 5 de la NBA, ok, deux fois All-Star lui aussi. On a un meilleur défenseur de la Ligue trois fois, et ça, il n'y en a pas beaucoup, Rudy Gobert. On a, dans la dernière draft, deux draftés top 8. Le numéro 1 de la draft,
et
Victor Wembanyama, qui a la plus grosse hype depuis LeBron James, qui n'est pas étranger.
C'est vrai que ça compte déjà, en
fait. Qui n'est pas étranger, mais qui est américain. Donc, on a Bilal Koulibaly qui est 7, donc dans la même draft, on en a réussi à mettre deux joueurs français. On a, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je te rejoins complètement, souvent, très souvent, le plus grand contingent de joueurs français.
Pas tous les ans, mais quasiment. C'est pas
oui,
mal,
mais
on est, qui joue pas.
On est toujours représenté, donc on marque la NBA aussi, parce qu'on est présent. La non, présence,
mais on est respecté
c'est
quand on ne l'était
aussi.
Pas il y a une vingtaine d'années.
Quand,
quand
on pense à des futurs draftés, on pense souvent à des joueurs français en première position. Rizaché, par exemple, est prévu top 3 pour l'instant. Donc, pour moi.
Descendu, hein.
Donc, je sais pas, en tous les cas, moi, sur ce que j'ai vu, moi, il était encore top 3. Mais peu importe. En tous les cas, il a été à un moment envisagé top 3. Donc, pour moi, bien sûr qu'on est la nation qui a le plus marqué la NBA.
Ah, je sens que Stephen est agacé, mais je vais donner la parole à Arnaud parce que je ne sais pas où est-ce que tu te situes dans ce débat, Arnaud.
Alors, je ne nie absolument pas ce qu'a fait Tony Parker, ouvrir des potes. Porte
ouvert des potes aussi.
S'imposer surtout sur un poste qui était encore très restreint, le poste de meneur à l'époque. Il a clairement été précurseur là-dessus et a permis.
Arnaud, ne me donne pas de ton appui, j'ai pas besoin. Je me suffis à moi-même.
Mais
merci.
Je contexte. Moi, j'ai choisi les Serbes.
Les Serbes, à cause de Jokic.
Alors. Nikola Jokic, non tout ce qu'il fait, oui, et ce qu'il va
Jokic,
la Serbie n'est pas invitée dans ce débat, hein, ce qu'on soit bien d'accord.
Laisse-moi parler.
Vas-y.
Bogdan Bogdanovic,
oui,
exceptionnel.
Mais est-ce que dans ta Serbie, tu vas compter la Yougoslavie?
Ah ben non.
Alors,
attends,
non,
je connais d'anciens commentateurs qui disent que la Yougoslavie et la Serbie, c'est pareil. Nous, on n'est pas à ce stade-là quand même.
On n'est pas. Je vais juste tirer par les cheveux.
Qui a, à qui il a mis une balle perdue là?
Je sais pas.
C'est qui Fred?
C'est pas moi.
Là, je vais vous entendre hurler, mais je rappelle que le père de Luka Doncic est serbe.
Non mais
voilà.
Non mais
l'histoire.
Non. Ça compte pas. Ça argument non retenu.
Tu
votre
le retiens
nom.
Pas moi. Peja Stojakovic. Ça vous parle? Maillot retiré aux Kings.
Il est mort, non?
Trois fois All-Star. MVP de l'Eurobasket 2001.
Seulement trois fois All-Star, c'est pas beaucoup. Bon, par rapport à ce que je t'ai cité.
Maillot retiré aux Kings. Hein.
Oui, c'est très bien.
Et qui a le maillot retiré en français?
Tony Parker.
Et
c'est tout, non?
Voilà. Non, mais voilà. C'est quand même une distinction, okay. Maillot retiré. Joueur exceptionnel, reconnu pour son bras.
Aussi, hein.
Drazen Petrovic, qui n'a évidemment pas fait. C'était Yougoslavie à l'époque.
Non, mais là, si alors là, je sais qu'il y a forcément des auditeurs.
C'était Yougoslavie à l'époque. C'était donc, avant le démantèlement.
En englobant tous les pays qui sont maintenant indépendants.
Tu peux pas
dire Yougoslavie, c'est servi, c'est pas possible.
Je parle pas de Tony Kukoč, qui est croate,
qui
a brillé
une
fois que la Croatie était indépendante.
Sinon, il y avait l'Empire Ottoman aussi, qui regroupe pas mal de joueurs.
Tu sais qu'Edo Turkoglu a des parents serbes, j'ai découvert ça.
Edo
Turkoglu a des parents serbes. Et aussi l'accomplissement.
En plus, il est né en Croatie quand même, Petrovic.
Mirsad Turksan a des parents serbes aussi.
Et derrière, j'oublie pas aussi la Serbie qui a fait des finales aux Jeux Olympiques. Je vais me dire que ce n'est pas l'NBA, mais ils envoient Team USA, l'Armada, aux Jeux Olympiques. Il y a eu 2016.
Ça, j'ai bien l'entendre.
Et la Yougoslavie, Pierre. En 96, mais là, c'était
Pierre,
Serbie.
On est sur
la
du hors-sujet.
La Croatie avait fait
on
la finale en 96.
On parle de Yougoslavie, on parle de compétition FIBA,
alors,
on est sur du hors-sujet.
Bizarre, tu ne cites pas Novak Djokovic qui a marqué la NBA, non?
J'avoue qu'il n'y aura pas une très bonne note
très bon
en géographie, là, pour le coup, ni en histoire. Alors, Stephen.
Là, écoute, je ne t'ai pas cité des noms qui parlent.
Oui, il y a des bons arguments. Il y a 2-3 pieds en touche, comme l'a souligné
Bon,
écoute-moi, Pierrot, Fred a été bon. Fred a été bon dans son argumentaire et je dirais que la France aurait pu être la nation qui a le plus marqué la NBA s'il n'y avait pas eu le Canada. S'il n'y avait pas eu le Canada, parce que le Canada, ils ont un champion NBA antique qui s'appelle Jamal Murray, qui est quasiment le go-to guy de la franchise avec Nikola Jokic.
Commence pas, là, puisque là, Canada, t'as plein d'arguments meilleurs que Jamal Murray,
oui, le
gars de la franchise.
Ça commence pas aussi mal, honnêtement.
Sauf que c'est Jokic.
Après, si on parle de attention quand même, Jokic, oui, mais Jamal Murray, gros, il est là. Hein.
Je pense que
dans le vestiaire, ils sont assis à côté. Après, si on parle de précurseur, on est obligé de parler de Steve Nash, qui a quand même été double champion, double MVP de la saison régulière, cinquième meilleur passeur de l'histoire, 8 fois All-Star. On a Victor Wembanyama qui est numéro 1 de la draft, mais les Canadiens, ils en ont eu un avant, qui s'appelle Andrew Wiggins, qui a été rookie de l'année aussi, qui a été All-Star et qui est champion NBA en 2022 avec les Warriors, avec un énorme rôle auprès de Steph Curry et de Klay Thompson. Si on remonte un peu plus loin, et là, ça va faire plaisir à Fred, un Canadien qui est un peu passé dans l'anonymat, mais dans le three-peat des Bulls 96, 97, 98, il est là, c'est Bill Wennington, qui joue pivot avec les Bulls et qui est Canadien. Ensuite, Yarick Fox, Canadien, dans le three-peat des Lakers 2000, 2001, 2002.
Concrètement, pensais qu'Enquête était plus intéressante, hein, quand même. Pardon, ses conquêtes féminines étaient beaucoup plus intéressantes que son jeu à Rick Fox.
Oui, mais bon, il est quand, ouais, même, il est quand même starter.
Il m'a sorti un nom.
Non, super joueur.
Pardon, si, okay. Starter, les trois années, je répète, hein, quand même.
L'histoire de la NBA, bon.
Des Lakers, Phil Jackson.
Il y a quand même trois bagues de champion NBA et c'est un pilier important des Lakers 2000-2001-2002. Ensuite, on peut parler de Tristan Thompson, qui est champion NBA en 2016, qui est pivot titulaire à côté de LeBron et qui ensuite fait trois finales NBA. Et puis, il y a une nouvelle génération qui est là, Shai Gilgeous-Alexander, qui est All-NBA First Team cette saison, quatrième meilleur scorer NBA, et un paquet de garçons qui ont des énormes rôles en NBA. On pense à Kelly Olynyk, on pense à Lou Dort, à Dylan Brooks, à RJ Barrett. Donc, pour moi, le Canada, en fait, est un peu devant la France, Pierrot.
Un peu ou beaucoup?
Beaucoup, même.
Beaucoup. Alors, ouais. Parce
après,
y a,
c'est
y a
A quand... le plus marqué, c'était ça, le son de ta
question. Oui, mais après, parce qu'il y a une question, c'est est-ce que quand tu as un joueur hors norme, est-ce que t'es pas déjà devant la France? Je veux dire, est-ce que le Nigeria avec Olajuwon, par exemple, Steve Nash avec le Canada, ou Nowitzki, l'Allemagne, sont pas, en fait, des nations...
La Grèce, Giannis Antetokounmpo.
Bah oui, bien sûr, oui. La Serbie avec Jokic. Alors l'Espagne, pour moi, je pense pas que Gasol soit dans une dimension supérieure à Tipeee.
Gasol a pas été le go-to guy des Lakers.
Quand même, je pense qu'on a
quand
même Tipeee. Hein,
sauf qu'il y a les deux Gasol. Donc quand tu associes les deux, il y en a qui a été meilleur défenseur, le tout à l'heure, il y a quand même...
Et Marc est champion avec les Raptors.
Exactement.
Donc, mais nous, on a Pierre Parker et TJ Parker. Donc on a deux frères. Non, mais sérieusement, est-ce que Hakeem Olajuwon, à lui seul, a pas plus marqué l'histoire de l'NBA que la France?
Non, tu dis Embiid et Siakam avec le Cameroun.
Hakeem Olajuwon qui a joué avec Team USA.
Ouais, bon argument. Bon argument, ah, mais ouais, après, j'ai rien quand même.
Tous les Canadiens que je t'ai cités, ils ont joué avec le Canada, avec l'équipe nationale.
Est-ce que Jokic, à lui seul, n'a pas plus marqué la NBA que la France?
Mais tu parles de pays.
Ah, il y a les Argentins.
Oui, effectivement, lui, c'est impressionnant, mais concrètement...
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Argentine.
Manu Ginobili.
Je trouve que c'est équivalent avec la France, non? L'Argentine.
Non,
j'ai choqué.
Parce que Manu, c'est la même question.
Ils ont pas numéro un draft. Ils ont pas numéro un.
Manu est indissociable de Tipeee.
Ils ont pas numéro un draft.
Ils ont pas numéro un draft.
Mais si tu parles de Olajuwon, tu parles de Yao aussi.
Roberto, par exemple.
Mais ils ont battu par contre en sélection les États-Unis.
Ils sont champions du monde. C'est un champion du monde.
C'est pas la NBA soit, mais c'est une génération qui a fait très mal.
Donc moi, c'est la première fois que je suis dans un cours où le professeur lui-même se trompe de sujet.
Ah bah pourtant, ça arrive. Hein. Non mais j'avoue que tes arguments sont très bons. Je reconnais là ta fibre patriotique, mon cher frère.
Sinon, j'ai regardé.
Toi, Pierrot, tu votes pour qui alors?
J'ai du mal, c'est pour ça que je vous ai proposé ce débat. Moi, la question vraiment que je me pose, c'est sur les méga stars, les joueurs hors normes, Nowitzki, Giannis, Jokic et Olajuwon. Si on demandait aux Américains, je ne sais pas s'il répondra à la France. Je vous dis franchement, je ne suis pas sûr qu'il répondra à la France.
Il y a des gens au Canada, parce que c'est un pays limitrophe.
Oui, bien sûr.
Tu es d'accord avec ça, Fred?
Alors, la problématique, c'est la question aussi. Quand tu parles des Américains,
Des
Canadiens sont Américains. Donc
tu
évidemment,
retiens les critères qui te vont.
Mais les Canadiens sont Américains.
Bah oui.
Les Canadiens sont Américains.
Ah bah oui.
Pas plus que le
continent américain.
Yougoslave.
Ah, ce continent.
Ben oui, les Canadiens sont Américains.
Ils sont Nord-Américains, tu veux dire.
Juste, j'ai regardé, Michael Jordan avait... une idole, notamment Dr. J, Julius Erving.
Ah bah tu vois, voilà. Comme quoi même MJ avait une idole. C'était qui ton idole toi, Steve?
Moi c'était Dirk.
Dirk? Ouais, non mais à l'époque, quand tu étais gamin.
Ah quand j'étais gamin, ouais. C'était Boris Becker.
Ah ouais d'accord, boom, boom. Et toi Fred?
Hakeem the Dream.
Bah voilà, donc on y revient à Hakeem Olajuwon.
Américain.
On a fait le tour. Personne n'avait vraiment gagné ce débat, hein.
Bah, j'ai du mal
à vous
débarquer. Les auditeurs de Basket Time diront qui a gagné.
Non, mais très objectivement.
On lancera un petit sondage.
Exactement.
Pierre, vu que tu ne me demandes pas, je vais te répondre quand même. Je dirais que les arguments de Stephen
m'ont pas.
Ne te dévalue pas. Alors, c'est pas du tout le moment de te dévaluer puisque nous arrivons au quiz.
Ah merde. Il n'y a pas de Tariq Abdulwahad. On s'est fait deux éléments majeurs en moins. Et c'est vrai que c'est. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Allô? Oui? Attends chérie, je suis en train de répondre à une interview, je te laisse.
Et si c'était ça le principal danger pour les Bleus? Un trop plein de sollicitations avant l'Euro?
Je suis vraiment désolé. Hein.
Qu'est-ce que c'est que vous m'avez sorti? C'est exceptionnel. Fred, t'assumes pas là?
Non, si, j'assume. Et très bien.
J'ai tellement blindé d'oseille que c'était un des seuls au monde à avoir un téléphone portable.
À 33, t'es en quelle année ça, Fred?
C'était.
T'as reconnu, j'espère, la voix de Fred Veil.
Non,
ça devait être en 98-99.
Et t'avais répondu à ta chérie?
Ben oui.
Ok, bah pourquoi pas. Hein. Donc alors, j'ai choisi de manière unilatérale que le thème du quiz serait exclusivement Boris Diaw. Voilà, on va réviser Boris Diaw. Il y a des questions faciles, des questions plus difficiles et des questions qui s'éloignent un tout petit peu de Boris. Mais qui ont toujours un rapport. Est-ce que vous êtes prêts ? Fred, t'es sur une bonne lancée, là, donc je compte sur toi. On va démarrer simple. Avant l'INSEP, dans quel club Boris est licencié ?
Bordeaux.
La JSA Bordeaux, ouais, Bordeaux, je l'accorde à Stephen, puisqu'évidemment, c'est le club dans lequel il retourne pendant le lockout. Vous deviez le savoir.
Normalement. Oui, c'est vrai.
Pouvez-vous me citer un des six clubs professionnels d'Elisabeth Riffio, la maman de Boris Diaw ?
Clermont-Ferrand.
Excellent.
Ah, c'est pas. Ah, faut balancer comme ça.
Ah, bah oui, toi, t'es... ça y est, t'es.
C'est l'un des six.
Ça a démarré, hein, Arnaud. Hein.
Ah oui, un des six. Ah, je pensais que c'était chacun son tour.
Et c'est lequel, à Clermont, ASM ou Stade ?
Je sais pas. Le Stade.
Non, mais c'est une vraie question.
Le CUC.
Ah, le. Ok.
Donc c'est ni un ni l'autre.
Clermont, université.
Ouais.
Club,
probablement. Vous voulez les cinq autres ? Il y a Besançon, Évreux, Asnières, Mont-de-Marsan et Sainte-Eulalie.
Sainte-Eulalie !
Ça fait déjà deux points pour Stiff. Alors. Là, on va faire. Je vais vous poser une question. Vous pouvez répondre tous en même temps. Rapidité, mais vous n'avez droit qu'à une seule proposition.
C'est en un coup.
C'est en un coup, parce que sinon, ça va aller trop vite et ça va.
Le lancer,
ça n'aura aucun intérêt. Dans quelle franchise Boris Diaw a-t-il joué le plus de matchs de saison régulière ? Non, c'est pas la bonne réponse.
Donc il est éliminé.
Éliminé.
Ah oui.
Le plus de matchs de saison régulière.
La saison régulière.
Les Charlotte Bobcats.
Et eh bien, c'est les Spurs, bande de trucs.
Je voulais le dire.
331 matchs, donc pas de points sur cette question. Et là, on va jouer à quelque chose d'intéressant. Bah oui, moi, quand même, vous aviez le temps de réfléchir, puisqu'il y avait une seule réponse. Bon, bref, c'est pas grave. Une citation qui parle de Boris. Vous me trouvez l'auteur de cette citation. Voilà, donc qui a déclaré ceci sur Boris Diaw ?
C'est mon honneur ou c'est toi ?
Non, c'est moi qui vous donne les déclats. Et là, vous pouvez y aller. Hein. Je suis très fier d'avoir
Popovic.
Première déclaration. Je suis très fier d'avoir partagé le maillot de l'équipe de France avec lui. C'est quelqu'un de bien, humble.
Michael Djellabal.
Un immense joueur qui a énormément apporté à l'équipe de France.
Batum.
Qui l'a amené au sommet du basket international. Il est toujours venu en compétition, même lors de certaines phases de qualification. Je crois que toute la France peut le remercier.
Jean-Pierre Sutin.
Pour tout ce qu'il a fait sous ce maillot. Frédéric Weiss en 2017. Comment ça t'est revenu ? C'est moi, Eddy.
En fait, j'ai tout tenté, tous les joueurs auxquels je pensais. Je me dis, je suis sûr que ça va être moi encore.
Bah, tu l'as dit, et bravo. C'était il y a 6 ans, donc c'est normal.
Le c'est moi pour une réponse.
C'est moi, c'est pas un nom. Ça.
Oui, c'est pas un nom, ça.
Si. Ça passe.
J'accepte. Moi. C'est plus long de
Bernard, dire
Frédéric Weiss que c'est moi.
Deux points pour Steve, un point pour Fred. Deuxième déclaration. Fin de la deuxième journée du camp d'entraînement. Tout le monde travaille très dur, mais Boris Diaw préfère jouer à Dora l'exploratrice Popovic. En France. C'est pas Popovic.
À Dora l'exploratrice en France.
C'est début de saison 2014 et Boris était...
Emmanuel Ginobili.
Manu Ginobili, en randonnée dans les Pyrénées. C'est quoi cette histoire ? Comment on peut arriver en retard à un camp d'entraînement des Spurs ? C'est réaliste, non ?
Mais c'est pas cette histoire non plus.
Moi non plus.
C'était ses vacances. Bref.
Bah, il avait fait l'Euro, donc...
Un troisième point. Ah, c'est peut-être
2017
ça, ouais, peut-être. 2014.
Ah, 2014.
2014.
Peut-être un rassemblement d'équipe de France.
Du monde 2014.
Troisième déclaration. Je l'admets, je suis un fan des Bulls, mais c'est difficile de ne pas aimer les Spurs. Ils sont vieux et internationaux, comme Tony, Boris, Manu
Dwayne
et
Wade.
Thiago Splitter.
Dwayne Wade,
non. C'est pas Dwayne Wade.
Je suis un fan des
LeBron.
Bulls.
Donc c'est un LeBron, mec qui... non.
Ah, on peut.
Je suis un fan des Bulls.
Fan des Bulls, non.
Joachim ?
Non. Rose ?
Comment ? Derek Rose, Rose ? Non, pas Joachim Noah.
Je suis un fan des Bulls.
Je suis un fan des Bulls. Je dirais que c'est l'indice le plus parlant. Je suis un fan des Bulls.
Barack Obama,
ah. Excellent. Bravo, Steve. 4 points, ça va vite. Allez, une nouvelle déclaration. J'aimerais jouer comme Boris.
Nikola Jokic.
Non. Avec lui, tout paraît facile. LaMarcus l'appelle Tea Time, car il donne
Craig
l'impression
Popovic.
De prendre son temps. Non, mais vous êtes sur la bonne voie. Comme s'il buvait du thé en marchant.
DeMar DeRozan.
Non. C'est
Kawhi
plutôt marrant à voir, mais c'est très efficace.
Manu, Aldridge,
en
Spurs,
plus, il est malin.
Stephen, non, pas Stephen.
Donc c'est un des coéquipiers Splitter. De cette époque-là des Spurs, absolument.
Je sais qui c'est.
Tu sais qui c'est ? Mais ouais. Ne le regarde pas, réfléchis en même temps, toi. Parce que là, il va le dire.
Poste 3 shooter, qui était champion avec les Spurs, qui s'appelle Danny Green.
Excellent. Bravo. Oh. On est à 5 points pour Steve, qui connaît bien son Boris Diaw. Hein. Qu'est-ce que vous attendez, là ? C'est Boris Diaw quand même. Oh. Vous êtes
on essaie.
Normalement, vous n'êtes pas à la pointe.
C'est pas votre Boris.
On est dans un podcast de basket, messieurs dames, en France. Allez, nouvelle déclaration. Ça va très vite. Sans Boris,
Pop.
Les dîners sont beaucoup moins abusants. C'est Greg Popovic, absolument. C'est ton premier point, Arnaud. C'est peut-être le début de quelque chose. Dernière déclaration.
Non, mais toi, à chaque fois que tu as posé une question, il y a hip-hop. Oui.
C'est la mer noire.
C'est la mer noire. En fait.
Il aurait fallu que tu le perdes, ce point, ça aurait été assez bon. Et enfin, donc, est-ce si étonnant de voir Boris quitter le monde du basket en toute discrétion ? Je crois que c'est à l'image de l'homme.
Vincent Collet.
Et j'ai l'intime conviction,
Tony,
que son but était de partir avec ses 247 sélections comme sa maman.
Jackie Commer.
Non, mais c'est effectivement un Français qui a dit ça.
Nicolas Batum.
2018, c'est pas Nicolas Batum.
Fournier.
Florent Pietrus.
Pas Evan Fournier, non.
J'ai la balle.
C'est pas Michael J'ai la balle. Il a dit ça sur RMC, figurez-vous.
Stephen Brun. Evan
Claude Bergeau.
Stephen
Brun, mais vas-y, assume, vas-y à fond, Fred, tes deux points, c'est Fred Veil, c'est Stephen Brun.
Eh, c'est bon. T'as dit pas un truc Arnaud Maladon et je suis parfait.
J'ai dit quoi, moi?
T'as dit, est-ce si étonnant de voir Boris quitter le monde du basket en toute discrétion, parce qu'en fait, il n'a absolument pas annoncé sa retraite. Un jour, en 2019, je crois, août 2018, il n'a pas été retenu par Vincent Collet. D'accord. Et c'était la fin parce qu'il venait d'honorer sa 247e.
Comme sa maman.
Comme sa maman, exactement. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Alors d'abord, en 2006, on va revenir à la NBA, Boris Diaw est Most Improved Player. Qui est l'autre Français dans le top 10 des votes du MIP 2006?
Pietrus.
Batum.
Mike.
Non. Sixième. Je vous donne sa place, c'est sixième. Si vous voulez,
Noah.
Je vous donne les autres.
Tony Parker.
En 2006, c'est sixième au vote du Most Improved Player. Il est content, Stephen.
Bah oui.
Je vois, il trépigne un peu sur sa chaise. Donc, on en est à 6 points pour Steve, 2 pour Fred et 1 pour Arnaud. Vous pouvez encore gagner, messieurs. Avant-dernière question, avant la question multipoint. En équipe de France, Boris compte 247 sélections, comme sa Elisabeth. Maman, Elisabeth Riffiaud. Hommes et femmes confondus, qui détient le record du nombre de sélections?
Donc là.
Céline Dumère.
Bravo.
Il n'était pas sûr en plus. Hein.
Je veux savoir si c'était hommes et femmes confondus.
Oui, je l'ai dit juste avant. Tu l'as dit du bout des lèvres, je te l'accorde. 262 sélections devant Hervé Dubuisson, 259. Donc là, bon, bah, peut-être qu'on peut avoir un retournement de situation, je ne sais pas. Question multipoint, d'accord. Vous allez me donner un nom, chacun votre tour. Nous sommes le 31 mai 2014. Boris inscrit son record de points en play-off avec les Spurs lors d'un grand match, très grand match.
2014.
Match 6 de la finale à l'Ouest. Et donc, il inscrit 26 points contre OKC en prolongation. Et oui, on a oublié que Boris, il a fait gagner les Spurs hein, dans des matchs très, très importants de play-off NBA. 20 joueurs ont participé à ce match. Vous m'en citez chacun votre tour. Je vous donne juste une petite indication. Il y a très peu de joueurs obscurs. Il y a beaucoup, beaucoup de grands joueurs dans ce match, voilà, dont certains jouent encore.
Bien sûr, Pierrot.
On démarre par Fred.
Tony Parker.
Allez, on enchaîne vite, Arnaud.
Tim Duncan.
Steve.
Manu.
Manu Ginobili. C'est bon. À toi, Fred.
On a le droit de citer Boris ?
Évidemment, 120. Évidemment, tu as le droit. Arnaud.
Kevin Durant,
c'est bon. Steve.
Russell Westbrook,
on est bon. Nouveau tour.
Serge Ibaka,
c'est bon. Arnaud.
Kawhi Leonard,
c'est bon. Steve.
James Harden.
Non, il est parti.
James Harden.
2014,
c'est pas
il
bon.
Est parti.
Alors là, ça va être intéressant. Car maintenant, on va vous accorder un point. Puisqu'on a fait un tour où vous étiez tous à égalité. Maintenant, je vais compter les points. Fred, je compte juste le nombre de joueurs qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Béni.
Là,
trop de noms.
Là, on est parti pour un retournement de situation. Fred,
non.
C'est pas le moment de paniquer. Alors, vous avez donné les plus évidents, mais il en reste des très, très connus. Hein.
Thiago Splitter.
C'est excellent.
Ah
c'est excellent.
Là, franchement.
Arnaud.
Danny Green,
c'est bon. Fred, on en est à 6-3-3 sur les points du quiz. Fred, à toi.
C'est Folochat.
Sefolosha, alors, t'as non. Pas de chance parce que Sefolosha, il est sur la feuille de match.
Mais il n'est pas joué.
Pas joué une minute.
C'est bien tenté.
C'est dommage.
C'est bien tenté.
C'est dommage. Arnaud, je ne veux pas te donner d'indices. Ah, je vais lui donner des indices.
Non.
J'en ai un qui est encore noté.
Bah vas-y.
Steven Adams,
c'est absolument bon. Donc, t'es à 4 points.
Spurs,
pour gagner, ça va pas le faire.
Si tu montes à 6, c'est qu'à égalité, on fait un.
Non, je ne vais pas monter.
Mais si, tu peux, enfin. Il y a des joueurs qui jouent encore là. Comment je vais t'aider sans t'en dire
Non, mais après, j'en ai un au okay, ici, mais je suis pas du tout sûr. Collison.
Nick Collison, il a joué 2 minutes. Bravo. On est à 5. Allez, on fait une prolongation. Alors, comment je vais t'aider?
Non, pourquoi tu l'aiderais?
Oui, pourquoi tu l'aiderais?
Parce que c'est rigolo. Il y a un joueur qui s'est même...
Greg Popovich.
Qu'on a vu à la Coupe du Monde, là.
On a vu la Coupe du Monde.
Tu vois qui c'est, tu l'as?
Nando?
Non, c'est pas Nando. Bon, dommage, hein. Dommage, t'étais pas loin. Il y avait Patty Mills.
Bah oui,
Corey Joseph.
Je cherchais le backup d'Otoni.
Matt Bonner, starter avec les Spurs. Marco Bellinelli. Kendrick Perkins.
Oui, le Perk.
Reggie Jackson. Il y avait également Derek Fisher et Jeremy Lamb.
Derek Fisher,
victoire de Steve, mais ça passe tout juste.
Ça passe, Rick.
À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.